consultant sportif, était une figure respectueuse dans le milieu sportif. Le FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, fait part de son inquiétude au sujet du calendrier chargé qui attend les footballeurs.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique, bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manila Kiza avec nous ce soir, Lionel Lunanila Gaïma sur la mise en onde. Débat historique à Genève devant le Conseil des droits de l'homme, qui se penche depuis mercredi sur la question brûlante du racisme et des violences policières à la demande des pays africains qui souhaitent une enquête sur le racisme systémique, notamment aux États-Unis. Ce débat est consécutif au contexte du mouvement historique Sekou des États-Unis depuis la mort le 25 mai à Minneapolis de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié par un policier blanc. Dans un projet de résolution qui circulait mardi, le groupe des pays africains condamne fermement les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les Africains et les personnes d'origine africaine, et le racisme endémique structurel du système pénal aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue à tous. L'Amérique et vous accueillent ce soir Monsieur John Fisher de Human Rights Watch à Genève. Bonsoir.
Bonsoir.
Mireille Fanon Mendes France de la Fondation France Fanon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en France.
Je suis à Paris, oui.
La ville des Lumières.
Si l'on veut.
Dans le Maryland, René Leck, analyste politique. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Yaka Lagoke, panafricaniste dans le sang. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous êtes sankariste ou adepte de Nkrumah?
Je suis un Nkrumahiste, sankariste, et mandélaïste, et lumumbiste, et puis ça continue.
Oui, Nyaka, que pensez-vous de cette initiative des pays de l'Afrique?
C'est une avant-première, et puis je pense que, comme on le dit aux États-Unis, it was a bad time. C'est une initiative que Malcolm X avait initiée en 1964. Quand il a quitté le Nation of Islam et il a voulu rallier les leaders africains au sommet de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, je crois en 64 au Caire, et donc il les avait amenés à faire une motion, même s'il n'avait pas dénoncé la ségrégation raciale, donc cela fait vraiment plaisir que les Africains donnent de la voix cette fois-ci.
Mireille.
Écoutez, je trouve que bon, l'initiative est très bonne, le résultat est beaucoup plus problématique, puisque Madame Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a proposé qu'il y ait non pas une commission d'enquête, mais des rapports, un Xème rapport. Et vous avez dit que j'étais de la Fondation France Fanon, c'est exact, mais j'ai été aussi pendant 6 ans experte aux Nations Unies dans le groupe de travail sur pour les personnes d'ascendance africaine. Et à ce moment-là, nous en 2016, j'étais chair du groupe et nous avons fait une visite de pays aux États-Unis, où nous avons constaté effectivement ce racisme systémique et structurel que vous aviez mentionné. Et par ailleurs, face à cette violence policière, à la violence faite à l'égard des Noirs, des African Americans, j'avais proposé, le groupe de travail dans une conférence de presse avait dit que à ce stade de l'état de la situation dans laquelle étaient les Afro-descendants aux États-Unis, il y avait toute une réflexion qui devait se mener pour arriver à mettre sur la table la question des réparations. Donc je pense que cette décision, que les 59 pays d'Afrique se soient mis d'accord pour arriver à faire cette réunion en urgence, est importante, c'est un premier pas, mais le pas n'est pas accompli complètement, puisqu'il faut effectivement véritablement, si on veut changer, une commission d'enquête, comme il y en a dans d'autres pays. La violence systémique et policière est suffisamment importante et impactante sur l'ensemble de la vie de la société américaine pour que ça mérite une commission d'enquête. Parce que c'est pas seulement aux États-Unis. On a maintenant, on commence à avoir la même chose en France, particulièrement.
René Lec, est-ce que c'est une situation qui écorne l'image de Washington?
Écoutez, je ne sais pas, je ne crois pas que Washington se préoccupe beaucoup de son image, en particulier en Afrique. Et franchement, même par rapport à l'Europe, et aujourd'hui avec l'administration Trump, encore moins même qu'avant. Mais Eric, si vous permettez, je crois que je vais être un peu la voix de dissonance ici, parce que c'est vrai que personnellement, je me félicite que l'Union africaine puisse bouger sur ce terrain du racisme, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque part à l'hypocrisie qui est assez grotesque à mon avis des États africains qui à titre individuel n'ont pas réagi. Ils se cachent derrière le multilatéral, que ce soit les organisations régionales, l'ECOWAS donc, ou l'Union africaine pour condamner le racisme systémique ici aux États-Unis.
Mais l'Union fait la force.
L'Union fait la force, c'est très bien. Mais en réalité, personne ne fait de déclaration directement dans le cadre de relations bilatérales pour l'exprimer haut et fort aux Américains. Alors que des ambassadeurs américains eux-mêmes, représentant les États-Unis dans leur pays, eux-mêmes manifestent et protestent. Je crois que c'est assez grotesque comme approche. Je trouve ça dommage parce que dans le même temps, on sait pertinemment que dès qu'il y a le moindre événement en France, il y a eu les attentats de Charlie, il y a eu l'incendie de Notre-Dame et autres, les chefs d'État africains se précipitent pour soit dénoncer dans le premier cas, soit apporter leur soutien dans le deuxième. Mais dès qu'il s'agit de faire face à une situation où il s'agit de défendre soit leurs propres citoyens ou encore les Noirs dans d'autres pays, notamment un pays comme les États-Unis, ou encore même pire, parce que le type de racisme qu'il y a aujourd'hui, Mireille en parlait tout de suite, qu'il y a en France, de mon point de vue, est encore plus insidieux. Donc sur ce point-là, on n'entend pas du tout les Africains, malheureusement.
Fisher, Human Rights Watch soutient cette initiative.
Oui, c'est ça. Et je pense que le débat qui se lance à Genève, c'est déjà important. C'est très difficile dans le domaine international d'apporter le scrutin sur les grands pouvoirs comme notamment les États-Unis. Et le fait que le Conseil des droits de l'homme est en train de considérer le racisme systémique et la violence policière aux États-Unis, comme un de mes collègues a dit, c'est long overdue, it's about time. Mais le problème, c'est que l'initiative du groupe africain, ce n'est pas encore adopté. Et déjà, les États-Unis mettent beaucoup de pression sur les pays dans toutes les régions pour enlever du texte chaque référence, toute référence aux États-Unis. Alors, ça serait vraiment une honte si ça se passe. Et on saura plus demain quand la résolution sera présentée pour adoption.
Un haut responsable du département d'État américain a parlé d'une idée ridicule, soulignant que les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd avaient tous été inculpés pour meurtre ou complicité et que le Minnesota autorisait la retransmission télévisée des procès. On ne peut pas avoir plus de transparence, a-t-il plaidé. Que pensez-vous de cette déclaration, M. Fisher?
On a entendu à Genève hier un appel très profond du frère de George Floyd. Il a vraiment demandé aux Nations Unies de répondre à ces demandes, de mettre en place quelque chose avec un impact comme une commission d'enquête. Mais on est un peu préoccupé par le fait que la résolution déjà c'est en train de changer. Même avec le texte actuel, ce n'est plus une commission d'enquête qu'on considère, c'est seulement un rapport au commissaire. Et comme je dis, même avec ça, il y a des pays qui essaient d'enlever du texte toutes les références spécifiques aux États-Unis. Alors pour nous, ce qui est primordial, c'est d'assurer qu'avec le résultat, il y a un processus pour mettre le scrutin sur les États-Unis pour pouvoir répondre aux appels qu'on appelle, qu'on voit dans plusieurs pays du monde pour confronter le racisme systémique aux États-Unis. Mais c'est clair que ce n'est pas le fin du chemin, ce n'est qu'un début et il y a beaucoup de travail à faire pour avoir un résultat qui est crédible.
Madame Mireille, que pensez-vous de cette prise d'opposition de Washington? Il n'y a pas eu de cover-up, comme on dit, tout est transparent, les policiers ont été inculpé.
Oui, mais c'est une chose d'obtenir la justice dans le cas d'un meurtre qui s'est déroulé au vu et au su de tout le monde, du monde entier même, puisque. Et c'est autre chose que de travailler sur les racines qui ont provoqué ce meurtre. Et ce n'est pas le premier. Il y a eu Trayvon Martin, il y a eu Michael Brown et Vanessa Ferguson, les parents de la mère de Michael Brown est venue déjà à Genève. Elle a témoigné devant le comité contre l'élimination de la discrimination, pour la discrimination de raciale. Donc, ça n'est pas nouveau. Ce qui est proprement scandaleux, enfin il n'y a pas d'autre mot, et même assez indigne, c'est de ne pas vouloir comprendre et voir, admettre que dans ce pays, les États-Unis et en France aussi, j'insiste pour qu'on inclue la France aussi, il y a un racisme structurel qui n'est pas de la même nature, mais qui ravage la vie des gens. Et on voit bien, en disant cela, le haut responsable de Washington ne fait que confirmer le fait qu'effectivement, la vie des Noirs ne compte pas. Si on ne s'attaque pas aux racines de ce racisme structurel, d'autres morts viendront. D'autres formes de racisme, enfin d'autres manifestations de ce racisme structurel, appelé afrophobie en fait, continueront. Donc ça n'est pas suffisant et je trouve que là l'ONU a une responsabilité grave parce que ce n'est pas la première fois que l'ONU est alertée, alarmée, poussée à agir face à des crimes commis pour des raisons de pigmentation de peau ou de caractère ou de phénotype raciaux, ce n'est pas la première fois et c'est vrai que les pays, l'ensemble des pays qui constituent la communauté internationale à l'ONU ne prennent pas la mesure, se révoltent lorsqu'un crime se commet, comme celui à Ferguson, comme celui à Minneapolis, comme celui à New York, dans d'autres villes, à Detroit aussi, mais ça s'arrête là. Ils ne vont pas jusqu'à dire, écoutez, c'est une cause commune, c'est une cause mondiale. Il y a eu la conférence de Durban en 2001, il y a déjà eu 3 décennies contre le racisme. À l'heure actuelle, nous sommes au milieu de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine. Personne ne le sait, tout le monde l'ignore. Donc, il serait quand même temps que l'ONU prenne ses responsabilités, parce que c'est dans ses principes de la charte de l'ONU, hein, que tout le monde est égaux, dit égal dignité, etc., etc. Ce sont dans ses principes, et qu'on commence un peu à travailler sur le fond, à savoir identifier, même si on les connaît, identifier les origines de cela, réparer ces crimes contre l'humanité qui ont été commis, et ensuite revoir même la nature même de la déclaration universelle qui a été faite à partir de la déclaration française et de l'indépendance des États-Unis. Donc on a quelque part une domination blanche qui est sans vergogne. Et ce qui fait dire à un haut responsable de Washington qu'effectivement c'est transparent, etc., il y aura un procès, et même il y aura la télévision, mais ce n'est pas ça que les Afro-Américains attendent. Ce n'est pas ça que les Afro-descendants ailleurs attendent. Ce n'est pas ça que les Afro-descendants au Brésil, alors que toutes les 23 minutes, il y a un jeune qui meurt, attendent. Ce qu'ils attendent, c'est que le racisme structurel cesse de les désigner comme un ennemi, comme un sous-homme, comme appartenant à la zone des non-êtres. C'est ça qu'ils attendent et c'est ça que nous attendons. Si nous sommes humains, c'est ce que nous attendons, c'est que l'humanité, elle se redéfinisse selon d'autres critères que celle de la domination blanche ou de la white supremacy.
Yaka Lagoke, Madame Mireille dit que des problèmes systémiques nécessitent des solutions systémiques.
Ah oui, on est tous d'accord. Elle a donné une brillante réponse là aux responsables américains parce qu'il ne s'agit pas de quatre policiers qui ont commis un crime isolé. Et comme elle a dit, bon, il y a tellement de cas. Je voulais juste ajouter celui de Tammy Rice, cet enfant de 12 ans dans un parc familial. Voilà, et qui a été abattu, et puis les policiers qui l'ont tué n'ont pas été condamnés. Ou encore Sean Bell, qui le jour de son mariage a été tué ainsi que deux de ses amis, 50 balles dans le corps de trois noirs sans armes en 2006, et ceux qui l'ont fait n'ont pas été condamnés. Et on peut parler de cela. Et alors, ce qui se passe, ça nous ramène à la période des lynchings, où les Noirs étaient lynchés et que des groupes de Blancs allaient, comme c'était un spectacle morbide et macabre, il y avait une certaine forme de délectation morbide. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pour cela que...
Mais c'est quand même différent. On a vu beaucoup de Blancs descendre dans les rues.
Je vais parler de cela. Ce que je veux, c'est pour ceux qui nous écoutent, la mort de George Floyd, c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes différentes interviews, la mort de George Floyd est arrivée et a suscité une alliance, une mobilisation universelle et mondiale. C'est la même chose qui s'est passée un peu à l'intérieur des États-Unis avec la mort de Emmett Till, qui a été accusé forcément par une femme blanche d'avoir flirté avec elle, et quand il est mort, sa mort avait tellement sa femme, sa maman a fait open casket funeral, et c'est comme cela que ici les Noirs ont trouvé qu'il fallait s'organiser. Donc c'est ce que j'appelle l'âge d'or du mouvement des droits civiques. Donc oui, déjà dans le temps, même au temps de l'esclavage ou au temps de la ségrégation, il y a eu des Blancs qui sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est une tradition de la lutte universelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Blancs. Et donc, on apprécie cela, un peu comme ceux qui ont créé le mouvement Antifa. Maintenant, c'est la mobilisation générale de tout cela, parce que George Floyd est mort le 25 mai, et pour les Africains, c'était le jour de la création de l'Union Afrique, de l'Organisation de l'Unité Africaine. Et donc, ça résonne dans la tête des gens, et c'était un moment important pour une nouvelle version, une nouvelle dimension du panafricanisme, mais qui s'inscrit dans la lutte internationale pour la justice et la liberté. Alors donc c'est quand on envoie des situations de ce genre devant l'ONU que le débat doit avoir lieu. Et comme Madame Fanon l'a dit, ce débat doit avoir lieu et à l'ONU, et l'ONU doit respecter ses principes fondamentaux. Et c'est quand on a ce genre de débat que les Noirs partout dans le monde, alliés à des Blancs ou des gens d'autres races, qui soutiennent la justice et la liberté. C'est quand on sera en train de le faire de façon constante, de façon consistante, mais pas de façon spasmodique et de façon sporadique ou intermittente. C'est ainsi que les gens verront qu'il faut respecter la vie des Noirs parce que nous ne demandons pas autre chose que d'être considérés comme des êtres humains. Et alors, il faut des changements profonds dans la société américaine, des changements profonds là où les Occidentaux pense encore selon la logique de la suprématie blanche.
Vous suivez l'Amérique et vous. Notre discussion continue sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
On est avec... Il faudra aussi des transformations profondes au sein même du continent africain.
Oui, bien sûr, Eric. Vous savez, le meurtre de George Floyd, à mon avis... L'une des raisons, hein, il y en a deux ou trois principales à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles il a eu un tel écho à l'échelle internationale, c'est que des George Floyd, il y en a plein dans le monde, Eric. Il y en a ici aux États-Unis où le racisme est fondateur de la nation américaine. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je les renvoie à la lecture de l'histoire des peuples de Howard Zinn, qui explique très bien comment l'Amérique a été fondée sur le génocide native américain des Indiens d'Amérique et l'esclavage. Et donc c'est très profond. Mais écoutez, si on devait parler de l'Europe, que ce soit la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, c'est aussi le racisme, mais aussi fondateur depuis 400 ans de leur épopée impérialiste et coloniale à travers le monde. et en particulier par rapport aux Africains et aux Noirs. Et moi, vous savez, je suis relativement d'accord avec Mireille quand elle parle tout à l'heure de la négrophobie, hein, moi c'est plutôt le mot que j'utilise, qui existe en particulier ici aux États-Unis. En France, je pense un peu différent, c'est plus de la, une sorte de paternalisme, de condescendance coloniale liée à cette conception de l'assimilation que les Français ont, mais en réalité les Français n'ont pas peur des Noirs, bien au contraire, c'est ici où il y a eu ce mythe de la peur du noir ici aux États-Unis. Mais bref, quoi, sans rentrer trop profondément dans ce débat-là, moi, ce sur quoi je voudrais insister, Eric, c'est le fait qu'au fond, je me dis souvent, mais en fait, les Noirs n'ont de place nulle part. Ici, aux États-Unis, un Noir n'a pas de place à Princeton, il est pourchassé par d'autres étudiants, il n'a pas de place quand il fait son jogging, il n'a pas de place, je repense à Henry Louis Gates à Harvard, quand il rentre chez lui, il n'a pas de place dans les malls, il n'a pas de place ici aux États-Unis, il n'est à sa place nulle part. En Europe, le Noir est à sa place nulle part. En Asie, le Noir est pourchassé par les Chinois qui considèrent que ce sont les Africains qui ont amené le Covid-19. Dans les pays arabes, n'en parlons pas. Alors là, c'est peut-être le point au monde où les Noirs sont encore les plus maltraités. Et en Afrique même, dans le nord de l'Afrique, moi je vois, je suis Sénégalais, mais notre voisin le plus direct, la Mauritanie, l'esclavage est un esclavage moyenâgeux est encore présent aujourd'hui. Je n'ai pas entendu la CEDAW se prononcer là-dessus, encore moins l'Union africaine ou les pays africains. Donc c'est pour ça que je parlais un peu tout à l'heure de cette hypocrisie-là. Et je passe maintenant sur le traitement xénophobe qu'il y a dans pratiquement tous les pays africains, les comportements ethnicistes, etc.
Donc je pense que sud, surtout.
Tout à fait, j'oubliais même, ou également les pays, certains pays lusophones. Donc il y a un véritable problème de la place du noir dans le monde, il y a un véritable problème de du positionnement historique des noirs dans les différentes épopées sanguinaires qu'il y a eu en particulier les 4-5 derniers siècles. Donc je crois que voilà les grandes questions sur lesquelles on devrait se pencher. Et quelque part, même si le racisme est fondateur de l'Amérique, même si c'est ici où peut-être que le racisme est plus violent dans son expression, quelque part, au moins la grosse différence entre les États-Unis et le reste de ces pays-là, y compris des pays africains, c'est que les débats, ils le posaient et qu'il y a une communauté noire qui se bat pour. Alors que malheureusement, ce n'est pas beaucoup le cas ailleurs, en particulier en France, où même le simple fait de poser la question du racisme fait de vous quelqu'un de controversé. Je regardais il y a quelques jours sur PBS, il y avait Rohia Diallo qui passait et le journaliste lui dit « Ah oui, mais vous êtes controversé en France. » Elle disait « Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'elle dit, mais effectivement, dès qu'on parle de racisme, dès qu'on pose seulement la question, dès qu'on on pose le problème du traitement des Noirs et des Africains en France, tout de suite, le débat n'est même pas autorisé, y compris par l'aile de gauche, y compris par les gens pseudo-progressistes. Donc vraiment, il y a un problème de fond ici, il y a un problème qui devrait être abordé, mais sans passer par l'hypocrisie du multilatéralisme, à mon avis.
Monsieur Fischer, Human Rights Watch soutient des solutions systémiques sur ces problèmes systémiques dont vient de parler la plupart de nos invités.
Oui, c'est ça. C'est clair, comme a souligné chacun et chacune ici. Je pense que c'est un grand problème aux États-Unis et d'ailleurs au monde, le racisme systémique, et ça ne sera pas adressé par une seule résolution auprès de l'ONU. Alors, pour nous, c'est un processus dont on a besoin. De George Floyd et tant d'autres personnes et les manifestations partout au monde, c'était un mouvement, une demande pour le changement profond et dans les pays membres de l'ONU, y compris les États-Unis, mais aussi auprès de l'ONU elle-même. Alors c'est un peu décevant qu'il y a beaucoup de pays actuellement au Conseil des droits de l'homme qui essaient de modérer le texte de la résolution africaine qui essaie de de dire oui, c'est vrai que le racisme c'est un problème partout au monde, mais sans la spécificité de mettre l'emphase sur les problèmes systématiques aux États-Unis, ou même pour mettre en place un programme d'action avec des engagements spécifiques, etc. Alors c'est pour ça qu'on lutte, mais c'est aussi le cas que auprès de l'ONU, il n'y a rien qui change dans un seul jour, un seul acte. Alors pour nous, nous y sommes engagés pour le long terme, et ça, c'est clair qu'on va continuer à battre pour la justice raciale, quoi que ce soit le résultat de demain.
Nous arrivons donc au terme de l'Amérique et vous. Merci à vous, Mireille Fanon-Mendez de France, pour votre contribution.
Merci.
Merci à Josh Fisher pour votre temps dans l'Amérique et vous.